le 7-9-30 sur France Inter.
Sonia De Villers, votre invitée, poursuit le récit de ses origines familiales.
Bonjour Didier Héribon.
Bonjour.
Vous étiez ami avec Pierre Bourdieu. Et le dernier livre qu'a écrit Pierre Bourdieu s'intitule « Esquisse pour une auto-analyse ». Il vous a fait lire le manuscrit avant publication. Geoffroy de Laganerie, qui est votre compagnon, a raconté récemment que, en lisant ce manuscrit, vous avez dit à Pierre Bourdieu « il faut aller plus loin ». Dans une auto-analyse, il faut oser se raconter. Il faut assumer des éléments autobiographiques que vous avez censurés. Il avait peur du regard de l'université. Est-ce que vous estimez que vous avez été plus loin ?
Le livre de Bourdieu, c'était une esquisse, qui finissait alors qu'il était très malade. Il est mort juste après avoir envoyé ce livre à son éditeur allemand pour le publier comme une esquisse en Allemagne, et il comptait le retravailler pour le publier en France. Moi, il n'a pas eu le temps. Et donc, moi, j'ai voulu justement porter ce projet de Bourdieu d'écrire une auto-analyse, oui, en essayant d'aller le plus loin possible.
Je cite Didier Héribon. La tristesse et la honte s'emparent de moi au moment de raconter ces épisodes qui ont rythmé les étapes du lent déclin de ma mère. Il me faut pourtant les raconter. Je ne peux pas peindre des enluminures, des portraits édifiants, mais offrir un tableau de la réalité.
Oui, c'est le passage où je raconte une visite que je fais à ma mère et où elle regarde la télévision, fait des commentaires racistes, comme elle a toujours fait tout au long de sa vie. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'avais fui mon milieu. Je ne pouvais plus supporter ce racisme omniprésent, obsessionnel dans le milieu dans lequel je suis né, dans lequel j'ai grandi. Donc je raconte plusieurs scènes où, quand elle voit Yannick Noah qui, dans une émission où il invite ses amis, ma mère, regardant ça, me dit: tu vas quand même pas me dire qu'il a que des amis noirs. Et je lui dis pas des choses comme ça, tu sais bien que je n'aime pas ça. Et là, elle me répond, parce que c'était une femme de caractère: je dis ce que je veux, je suis chez moi, c'est pas toi qui vas me commander. Bon. Et si je fais un portrait de ma mère, femme ouvrière, qui participait à des grèves syndicales, qui était une forte femme, qui a travaillé en usine pour que je puisse lire Kant et Aristote. Qui était communiste, à qui je dois d'avoir pu devenir ce que je suis devenu. Je veux donc lui rendre hommage, mais je veux pas faire un portrait mère courage, la grande héroïne de la classe ouvrière. Non, ma mère était une femme très courageuse, qui a travaillé dur toute sa vie, dont le corps était détruit par les métiers qu'elle a occupés, mais qui était une femme raciste. Sa personnalité, c'était ça. Comme elle avait été une femme soumise à toutes les humiliations, à toutes les infériorisations pendant toute sa vie, elle se permettait, elle se donnait la fierté de pouvoir insulter, mépriser des gens qui, pour une fois, c'était elle qui était du côté de l'insulteur.
Je vous fais écouter les mots de Jean-Paul Sartre. Il a 70 ans quand il parle à Michel Contat.
J'ai des troubles de tension assez considérables. Surtout, j'ai eu des hémorragies derrière mon œil gauche, c'est-à-dire le seul œil de mes deux yeux qui voit. Et alors qu'il est, je vois encore les formes, vaguement. Je vois les lumières, je vois les couleurs, mais je ne vois plus en général les objets distinctement, et je ne peux naturellement plus ni lire ni écrire. Mon métier d'écrivain est complètement dissous.
Voilà Jean-Paul Sartre.
Quelle archive, émouvante,
quelle archive exceptionnelle.
Quand on pense, l'auteur de L'être et le néant, de Saint-Genet, de La critique de la raison dialectique, voilà. Vous pensez de tout le théâtre qu'il a produit, dire qu'il ne peut plus écrire. À 70 ans, on était vieux.
Années 70.
Oui, et aujourd'hui, la vieillesse s'est déplacée, mieux.
Quel âge avez-vous ?
69 ans, donc j'ai un an de moins que Sartre quand il parle. Mais je peux marcher, je peux lire, je peux écrire, donc on voit bien que les choses ont changé. On se sentait vieux, même dans les milieux intellectuels.
Mais c'est ça qui est important, Didier Héribon, c'est que quand vous racontez vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple, de quelle vieillesse vous parlez ? Vous parlez de ce moment, et c'est le début du livre, où votre mère ne peut plus sortir de chez elle. elle a du mal à se déplacer dans l'appartement, elle tombe.
Elle tombe plusieurs fois.
Elle tombe. Vous racontez le moment où elle est tombée, où elle est restée au sol pendant des heures et des heures seule, et où vous êtes arrivée et où elle était nue, et où vous avez vu le corps de votre mère âgée nue.
Oui, elle ne pouvait pas m'ouvrir la porte, j'ai appelé les pompiers qui ont brisé la vitre extérieure avec leur échelle, sont entrés, m'ont ouvert la porte de l'appartement. Je suis entré et ma mère était nue sur le sol où elle avait passé visiblement plusieurs heures. Je dois dire que voir sa mère âgée, nue, n'est pas une expérience banale et simple, mais la voir nue, allongée sur le sol, le regard perdu, hagard, ça a été un peu traumatisant. La vieillesse, la grande vieillesse, d'accord, mais qu'est-ce que c'est la grande vieillesse? C'est une vieille femme qui tombe dans son appartement et qui ne peut pas se relever, et qui ne veut pas aller à la maison de retraite, ce que je comprends parfaitement, mais qui ne peut plus vivre seule. Alors comment on fait, comment on se débrouille pour gérer ces situations?
Alors vous dites, Didier Héribon, l'arrivée à l'EHPAD, puisqu'on n'a plus le choix, ce sera l'EHPAD. Merci. Vous dites, ce n'est en rien un déménagement, c'est l'arrachement au passé et au présent, c'est un bouleversement total. Vous dites, c'est une rupture radicale. Et elle le sent très bien, puisqu'elle arrive, elle pleure.
Je suis là le jour où elle entre à la maison de retraite. Je lui avais promis d'être là et j'ai tenu ma promesse, bien sûr. Et elle pleurait. Et je lui disais, mais maman, tu verras, tu seras bien ici, ils vont bien s'occuper de toi. Sachant que ça n'était pas vrai. Et elle le savait, elle aussi très bien que ça n'était pas vrai. C'est un déménagement sans retour. C'est son dernier logement, sa dernière demeure, si je puis dire. Avant, précisément, avant le décès.
Avant le glissement. Avant que le décès n'arrive. Vous dites, Didier Héribon, qu'au fond, l'espace se clôture autour d'elle.
Oui, ce qui m'a frappé, c'est que pour qu'elle ne tombe pas, on avait relevé les barreaux de son lit. Pour qu'elle n'ait pas la tentation d'aller chercher des affaires, oui, un objet dans le placard où étaient rangées ses affaires, on avait fermé à clé et enlevé la clé de... Quand je dis on, pas moi, le personnel de la maison de retraite, c'est ce qu'elle me racontait au téléphone. Donc, son espace se restreignait, se réduisait. J'ai beaucoup lu, travaillé dans le cadre d'une tradition philosophique, Merleau-Ponty, Sartre, etc., pour laquelle l'existence humaine, c'est pouvoir se projeter dans le temps, dans l'espace. Tout ça, c'est la définition de l'existence humaine. Quand vous ne pouvez plus bouger de votre lit, l'espace se réduit à presque rien. Évidemment, vous ne pouvez pas vous projeter dans l'avenir en disant « la semaine prochaine, je ferai ça, l'année prochaine, je ferai ça ». Il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Et donc, ce qui définit l'existence humaine se réduit de plus en plus. Tout s'était refermé. C'est comme si les murs s'étaient éloignés d'elle et l'espace disponible rapproché d'elle.
Et c'est ce qui fait vraiment, moi j'ai trouvé la fin de votre livre qui est absolument éblouissante. C'est justement ce moment où vous dites que la philosophie est écrite par des gens qui sont debout, pour des gens qui sont debout. Et que évidemment la philosophie a pris en compte dans l'histoire de la philosophie les corps malades, les corps affaiblis, les corps enfermés, les corps opprimés. Mais qu'au fond, jamais elle n'a pu penser un corps qui ne peut tout simplement plus se lever.
Si vous prenez les concepts de la philosophie politique, je donne toute une liste, le contrat social, le dissensus, ou même le consensus, la prise de parole, la résistance, la manifestation, la désobéissance civile, le peuple, l'assemblée, tous ces concepts impliquent des cerveaux qui peuvent discuter, délibérer, des corps qui peuvent descendre dans la rue.
En fait, je vais vous dire, pour simplifier, tous ces concepts implique qu'on puisse choisir. Et là, vous parlez de quelqu'un qui ne peut plus choisir.
Implique qu'on puisse choisir, et, j'allais dire à la limite, qu'on puisse marcher. Il faut, pour aller à une manifestation, il faut pouvoir marcher. Mmh. Il faut avoir un corps valide. Et je me suis dit, quelle est la place pour ma mère dans la philosophie politique? Et ma mère me laissait des messages sur mon répondeur téléphonique, la nuit, des messages interminables, qu'elle recommençait, quand ça s'interrompait, elle recommençait. Et elle me disait, on me maltraite ici. Je ne sais pas ce que je leur ai fait, je ne sais pas pourquoi ils me veulent du mal, mais on me maltraite. J'appelais les infirmières pour savoir ce qui se passait. Et je me disais, mais la plainte de ma mère est éminemment politique. Elle décrit une situation qui est la maltraitance systémique, institutionnelle, dans les maisons de retraite. Ma mère me disait, je n'ai pas le droit de prendre une douche. J'appelais le médecin de l'établissement qui me disait, ah, c'est pas qu'elle n'a pas le droit, c'est... Pour la lever, j'ai besoin de deux aides-soignants, deux hommes.
Et j'ai pas assez de personnel.
Et je n'ai pas de personnel suffisant, donc ça n'est possible qu'une fois par semaine. Et quand vous entendez une phrase comme ça, vous avez envie de hurler, de tout casser autour de vous. C'est un EHPAD public, et on ne peut pas. Ma mère ne peut pas prendre une douche une fois par jour. Et avec tout ce que ça comporte, puisqu'il faut parler des choses telles qu'elles sont, les couches qui ne sont pas changées, etc., etc. Évidemment, les personnes comme elle dans la maison de retraite ne vont pas se rassembler dans le couloir, faire une pétition, partir en manifestation sur la place.
D'ailleurs, vous dites quelque chose de très fort, Didier Ribon. Vous dites, c'est l'âge où on ne peut plus dire nous.
On ne peut plus dire nous. Voilà.
Nous. Quand elle était ouvrière, qu'elle était à la CGT, elle disait nous
elle
les
disait
ouvriers.
Nous les ouvriers.
À une époque, elle a dit nous les femmes.
Nous les femmes, oui.
Ouais. Nous. Nous les Français.
Nous les. Elle disait nous les Français. Même quand elle était raciste, elle pouvait dire nous en s'identifiant à un discours collectif, à un mouvement collectif. Elle s'inscrivait dans un discours collectif, dans une démarche collective, je peux dire une mobilisation collective. À la maison de retraite, ce « nous » ne peut plus s'énoncer. Mais, puisque la philosophie le fait très peu, il faut aller trouver les descriptions de cette réalité dans la littérature, ou dans le cinéma. Je cite le film extraordinaire de Michael Haneke, Amour, où Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva forment un couple très âgé. Le cinéma nous donne des descriptions et donc des sortes d'analyses de la situation, si on les regarde attentivement, que souvent la philosophie ne nous donne pas.
Vous êtes sur France Inter. Didier Ribon est mon invité. Vous écoutez Jean Ferrat, qu'écoutaient vos parents.
Au bout de mon âge, qu'aurais-je trouvé ? Vivre est un village où j'ai mal rêvé. Je me sens pareil au premier lourdeau, qu'encore émerveille le chant des oiseaux. Les gens de ma sorte, il en est beaucoup. Savent-ils qu'ils portent une pierre au cou? Au bout de mon âge, qu'aurais-je trouvé? Vivre est un village où j'ai mal rêvé. Pour eux, les miroirs, c'est le plus souvent, sans même s'y voir qu'ils passent devant. Ils n'ont pas le sens de ce qu'est leur vie. C'est une innocence que je leur envie. Au bout de mon âge, qu'aurais-je trouvé? Vivre est un village où j'ai mal rêvé. Tant pour le plaisir que la poésie, je croyais choisir et j'étais choisi. Je me croyais libre sur un fil d'acier. Quand tout équilibre vient du balancier. Au bout de mon âge, qu'aurais-je trouvé? Vivre est un village où j'ai mal rêvé. Il m'a fallu naître et mourir s'ensuit. J'étais fait pour n'être que ce que je suis. Une saison d'hommes entre deux marées. Quelque chose comme un chant égaré. Au bout de mon âge, qu'aurais-je trouvé? Vivre est un village où j'ai mal rêvé.
Au bout de mon âge, Jean Ferrat.
France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia De Villers.
La voix de Simone de Beauvoir.
C'est en partant de tout un faisceau d'idées sur la vieillesse que j'avais commencé, il y a des questions que j'avais commencé à me poser dès la fin de La Force des choses également, puisque finalement la vieillesse, j'en approche. Il y a ça qui a été un des éléments, c'est mon expérience personnelle, l'idée que je rapproche de la vieillesse. Mais il y a aussi l'énorme scandale auquel je suis très sensible, de la manière dont les vieux sont traités dans notre société aujourd'hui, parce que ce sont vraiment les parias de cette société. Et ici en France, on voit, si on va, je sais pas moi, faire son marché, on voit des pauvres vieilles femmes qui sont là en train de ramasser des morceaux de, des bouts de laitue, des bouts de ragatons de pommes, n'importe quoi, parce qu'elles n'ont vraiment pas de quoi, au jour le jour, vivre et même simplement manger. Et c'est tout ça que j'ai voulu dénoncer. Et au fond, c'est une mise en question de la condition humaine tout entière à travers la dernière étape qui est la vieillesse.
on entend là qu'elle écrit du côté des vivants, qu'elle écrit du côté des corps en pleine santé. On entend sa colère, on entend sa vie. Elle a la voix pleine de vie. Elle dit qu'elle entre dans la vieillesse, mais on entend à quel point elle est en pleine maîtrise.
Oui, elle vient d'écrire un livre de 700 pages.
De 700 pages.
Donc elle est, mais c'est un livre superbe et très important. Je rends hommage à Beauvoir dans mon livre, bien sûr, parce qu'elle a, en 1970, constitué comme un problème intellectuel, politique, théorique, une question qui était les personnes âgées. La vieillesse est un très grand livre. Et ce qui m'a frappé, c'est quand j'en parlais à des amis, je suis en train de relire La vieillesse de Beauvoir, mes amis, même ceux et celles qui ont lu tout Beauvoir, qui se réfèrent souvent à Beauvoir, soit n'avaient pas lu ce livre, ou même souvent n'en connaissaient même pas l'existence. Et je me suis dit, comment se fait-il que Le deuxième sexe soit encore aujourd'hui dans les listes de best-sellers, mais que son autre grand livre n'est sorti en poche qu'en 2020.
Eh bien, simplement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure avant qu'on écoute Jean Ferrat, c'est-à-dire que quand on lit Le deuxième sexe, on se dit nous les femmes.
Nous les femmes, génération après génération, les femmes ont lu Le deuxième sexe, l'ont fait exister au présent comme une référence. Incontournable. Ça n'est pas le cas de la vieillesse parce qu'il y a un mouvement féministe, mais il n'y a pas un mouvement des vieux qui ferait exister génération après génération l'intérêt pour un livre sur la vieillesse.
Très vénérée consœur Laure Adler a relu Simone de Beauvoir dans son magnifique livre La Passagère de la Nuit.
Bien sûr.
Elle a
relu La vieillesse.
Et après cette lecture, elle s'est bien promis de créer un mouvement des vieux.
Un mouvement des vieux. Et elle a raison parce que les vieux ne peuvent pas se constituer en mouvement parce qu'ils n'en ont plus les capacités. Quand je dis il n'y a pas de possibilité d'un nous, c'est l'expérience limite de la très grande vieillesse.
Alors quand votre mère arrive à l'EHPAD, alors nous sommes dans une commune, une des plus pauvres de France, et elle retrouve une dame qu'elle a connue, et vous assistez à un dialogue impromptu entre ces deux femmes qui évoquent leur vie conjugale.
Ce dialogue qui a duré une demi-heure, elles avaient oublié que j'étais là, elles n'ont parlé que de leur mari, avec des propos quasiment, notamment de la part de ma mère à l'égard de mon père qui était décédé une dizaine d'années auparavant, des propos quasiment haineux. Et je me suis dit, ma mère a vécu 55 ans avec mon père. Oui. Qu'est-ce que c'est que le mariage où
un passé qui dure longtemps,
voilà,
écrivez-vous.
Oui, le mariage a consisté pour elle à vivre pendant 55 ans avec quelqu'un qu'elle haïssait, le mot n'est pas trop fort. Et je me souviens, je le raconte dans Retour à Reims, de scènes où on voyait la haine qui débordait de tous leurs propos. Je me souviens que ma mère avait voulu divorcer. Quand j'étais enfant, nous étions allés, mon frère aîné et moi, nous avions emmené au palais de justice parce qu'elle voulait engager une procédure de divorce. Et puis, elle a abandonné cette procédure. Et à chaque fois que je l'ai interrogée par la suite sur les raisons pour lesquelles elle avait abandonné cette procédure, elle me disait, mais tu sais, pour une femme, à l'époque, c'était difficile. Comment j'aurais fait? Elle était femme de ménage à ce moment-là. Comment j'aurais fait pour avoir un appartement, vous nourrir ton frère et toi? Puis j'avais peur.
J'avais
peur de, comment elle disait, qu'ils viennent faire le cirque tous les jours devant chez moi. Et elle avait peur de sa violence, bien sûr. Alors je ne dis pas qu'il l'aurait tué. On peut pas toujours penser le pire.
Mais sans penser le pire, Didier Ribon, ce qui est très fort, c'est quand vous dites elle avait peur.
Elle avait
peur. En fait, elle avait peur de se retrouver seule, elle avait peur de la pauvreté, elle avait peur d'être démunie, elle avait peur d'être séparée de ses enfants. Elle avait peur, tout simplement.
Elle a eu peur toute sa vie. Et je ne sais pas jusqu'à quand elle a eu peur. Elle est restée avec lui et elle ne l'a pas quitté. Est-ce qu'elle s'était fait une raison ou est-ce qu'elle aurait pu partir quand elle avait, elle, 70 ans et que mon père en avait 71? Mais encore une fois, ces collages féministes que j'ai vus, où le féminicide peut se produire à plus de 70 ans, on ne peut pas dire, bon, à 70 ans, cette crainte aurait dû disparaître. Non, à 70 ans, il y a encore des maris qui tuent leur femme parce que leur femme veut partir.
Albert Cohen, quand il perd sa mère, a cette phrase, dites-vous, coupante. « Jamais plus je ne serai un fils ». C'est comme une fissure, ajoutez-vous, Didier Ribon, qui s'introduit dans l'identité personnelle. Avoir été un fils et ne plus l'être, c'est ce qui m'est arrivé.
Toute ma vie, j'ai refusé d'être un fils. J'ai quitté ma famille quand j'avais 20 ans, 19 ans même. Je ne voulais plus être le fils de cette famille, je ne voulais plus être un fils, je suis l'ami de mes amis. Et puis, Je suis redevenu un fils quand, après la mort de mon père, quand j'ai retrouvé ma mère, je me suis réconcilié avec elle. Pendant quelques années, je l'ai vue, je lui rendais visite. J'étais redevenu un fils, et par la même occasion, un frère, puisque je m'occupais de ma mère avec mes frères. Comme dit John Edgar Wideman, l'écrivain américain, dans la famille, on a une carte de membre. Et en fait, elle est toujours dans un tiroir, et vous pouvez toujours la ressortir et la faire valoir. Je suis membre de la famille. Et de fait, on ne quitte pas sa famille aussi simplement. Elle se réempare de vous quand votre mère commence à décliner, va mal, etc. Après, quand ma mère est morte, je n'étais plus un fils. Et c'est cette part de mon identité. Même quand elle était déniée, j'étais un fils qui déniait son identité de fils. Puis, j'étais redevenu un fils. Et là, je ne l'étais plus du tout.
Merci beaucoup, Didier Ribon. Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple est sorti hier en librairie. Il est paru chez Flammarion dans la collection Nouvel Avenir. Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Merci à tous les deux. Merci Sonia De Villers. Dans un instant, Totémique, Rebecca Manzoni.